C'est pas du vent. C'est pas du vent.
Luonto.
Le magazine de l'environnement.
Suomalaisille on tärkeintä perhe.
Sur RFI.
Suomalaisille on tärkeintä porukka.
Anne-Cécile Bras.
Bonjour, les glaciers du monde entier fondent à vue d'œil. Les conséquences sont et vont être colossales. Il y a le manque d'eau douce pour l'irrigation et l'utilisation domestique, la disparition des animaux et des plantes qui en dépendent, la hausse du niveau de la mer. Mais il y a aussi les loisirs de montagne. Que vont-ils devenir? À commencer par le ski, autour duquel s'est structuré de nombreux territoires. Allons-nous assister dans les décennies qui viennent à la fin de l'or blanc? Nous en parlerons avec Hugues François, il est spécialiste des stations de sport d'hiver et de l'enneigement à l'IRSTEA, un institut de recherche. Mais tout d'abord, direction les Alpes suisses. Samuel Turpin nous emmène à la rencontre de la famille Morissetti qui vit depuis les années 60 au rythme du ski dans la station de Val-de-Charmey. C'est au sud du canton de Fribourg. Ouais.
Bonjour Samuel.
Qu'est-ce qu'on fait là?
Alors on a une journée de travail du ski club. On enlève le surplus de pierre qu'il y a sur les pistes afin d'améliorer la qualité des pistes. Et on n'a pas de canon artificiel, donc on limite l'apport en neige. Pour les compétiteurs, on a des pistes qui sont mieux préparées. Puis pour les touristes qui arrivent, ils ont des jolies pistes sans caillou, puis ils ne rayent pas trop leur ski. On a une station où on a un canon d'appoint, mais on n'a pas d'enneigement artificiel, donc on n'a pas d'eau. On essaie de tout faire avec le minimum de neige possible. Moi je vais bosser parce que ma pelle est en train de refroidir.
Des pioches et des marteaux-piqueurs, ce n'est pas le son que l'on imagine quand on parle de montagne en hiver. C'est le début de saison, première neige à Val-de-Charmey, dans les Préalpes suisses. Une station de basse altitude avec un domaine skiable entre 1000 et 1600 mètres. Nous sommes avec la famille Morissetti, Philippe, président du ski club, sa femme et ses trois enfants, et le grand-père, Coco, qui a vu naître la station début des années 60. Une journée de bénévolat pour enlever les cailloux sur les pistes, ceux qui ne seraient plus cachés par la neige. À la manœuvre, Nicolas Bugnard. Il est le chef d'exploitation des remontées mécaniques et chef d'hameur.
Par rapport à quand j'étais petit, on remarque clairement que les jours de ski diminuent. Hein. La neige, la période de ski et les quantités de neige, on remarque quand même qu'il y en a quand même moins. Quand j'étais petit, on pouvait skier jusqu'au village à moitié de l'hiver, voire les trois quarts. Et maintenant, on compte les jours où on peut skier. Typiquement, nous, quand on dame, c'est un exploit quand on peut descendre avec la machine jusqu'au village. On les note dans le rapport parce qu'on sait que durant l'hiver, il y aura peut-être deux, voire trois jours où on pourra skier vraiment convenablement jusqu'en bas. La nature change. Ça, c'est une chose qui est sûre. Et on a beau y croire ou pas y croire, mais c'est réel. Après, d'une année à l'autre, ça change, donc c'est jamais régulier. Vu qu'on est en moyenne altitude, souvent, on remarque depuis ces dernières années qu'un jour, on a une superbe neige et ça peut le lendemain changer radicalement et il repleut. Donc on doit beaucoup s'adapter par rapport aux conditions de piste parce qu'un jour ça peut être poudreux, le lendemain ça peut être de la glace. Et c'est très difficile d'avoir une qualité de neige constante la même. Mais on y croit encore parce que Charmey sans ski, l'hiver ça sera Charmey entre guillemets qui sera un petit peu mort. Le ski c'est quand même quelque chose qui est ancré dans les gènes. Mais c'est clair qu'il faudrait nous investir pour faire de l'enneigement artificiel. Ça, à l'avenir, ça sera certainement quelque chose qu'on n'aura pas le choix. Quoi. Sinon, il faudra abandonner l'hiver, hein. Ça on est sûr. Hein. Mais pour l'instant, la priorité, c'est de maintenir ces installations comme on peut, quoi. Enfin, avec les moyens qu'on a. Quoi. C'est surtout ça la priorité, c'est les installations. Puis après, un jour, ça sera les canons à neige.
Écoute, c'est une annonce magnifique. Regardez la webcam.
Mais un sacré beau plus froid hein, par rapport à quelques jours.
Hello.
Bonjour.
Ça va, c'est toi?
Demain, on risque d'avoir un peu de vent, mais voilà, rien ne pourra empêcher.
C'est un bon week-end.
C'est un départ de camp de ski.
Alors voilà, ils font leur premier camp de ski de l'hiver. Le début de la saison commence pour les entraînements. À Charmey, il n'y a en tout cas pas de neige, donc on profite d'aller faire des camps sur Sassfeld ou Zermatt, quand ça dépend des disponibilités des stations. Et puis les jeunes, ils sont tout excités ce soir, parce que c'est leur première sortie à ski.
Ah, les deux pipelettes, là.
Bon, éloigné en voiture, en principe, ça part. C'est...
Charmey reste quand même une station familiale, où on a la... C'est des pistes, je dirais, assez simples. On a des pistes pour faire des entraînements. Mais c'est quand même pas la station réputée pour faire des compétitions. Quoi. On doit remplir un cahier des charges très important. On n'arrive plus, quoi. C'est des moyens financiers énormes pour des courses qu'on ne peut pas se permettre.
Pour une station comme celle-ci qui se pose déjà beaucoup de questions sur son avenir.
Exactement. D'ailleurs, pour une question d'avenir, on a la semaine prochaine l'assemblée qui sera assez importante, voire cruciale pour les remontées mécaniques. Alors on espère que le citoyen comprendra qu'il a la chance de vivre dans un village où il a une qualité de vie fantastique. Et puis que c'est un petit plus quand même pour tout le monde d'avoir des installations au village, quoi. Garder au moins ce que l'on a pendant qu'on a encore un peu de neige.
Et qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent perdre à ça, hein. Plus de stations ici, il y a quand même une économie directe et indirecte très importante.
Alors l'économie directe, effectivement, est très importante. Il y a énormément de commerce, il y a des hôtels, il y a des chambres d'hôtes, il y a beaucoup de choses qui vivent quand même de ce tourisme.
Bon, tu sais, ça le ramène bien ?
Ouais.
En novembre dernier, les habitants, appelés à voter, ont refusé une augmentation d'impôts de 5% pour valider le budget en hausse de la commune. Au centre des débats, le coût des remontées mécaniques et l'entretien du domaine. Nous rejoignons Coco, l'aîné de la famille, dans son atelier d'ébénisterie installé au sous-sol du chalet familial.
Déjà les anciens, mon grand-père, mon beau-père surtout là, il disait toujours que la carte visite d'une maison, c'est le tas de bois. Et la manière d'entasser le bois, ça donne la carte visite des gens qui y habitent. Alors, je suis en train de fabriquer des bacs à crème. Voilà. Alors, ça, j'ai un appareil là, qu'on appelle ça un bandane. Je voulais travailler avec des outils anciens. Donc, je vais mettre ma branche de sapin ici. Et à partir de là, je pousse avec mes deux pieds pour effectuer le serrage, là. Avec cette partie-là, je pluche ma branche de sapin. Il n'y a pas de branche sans nœud, c'est comme la vie, il n'y a pas de vie sans nœud. Donc j'avais une formation de base de nuisier charpentier, où c'était partir, comme la majorité des jeunes sont partis, sur Genève, etc., etc. Moi, j'ai décidé de rester. Et puis, ma foi, il fallait trouver des solutions pour survivre. Et après, je me suis orienté sur le tourisme. Puis, c'est pour ça que je suis parti sur le métier de prof de ski quand la station s'est ouverte en 1962. À ce moment-là, dire aller à Zermatt, c'était les riches qui allaient. Donc, le ski populaire se faisait dans les Préalpes. En tout cas, dans les années qu'on a construit, il y avait quand même des paquets de neige qui promettaient quand même un avenir serein au niveau du ski. On voit actuellement que, ma foi, les basses altitudes jusqu'à 2000 mètres, tout ce qui a été fait au niveau enneigement artificiel, ces investissements qui seront peut-être tous à suspendre d'ici quelques années. C'est tellement complexe de pouvoir faire survivre une station que... Ça n'a pas un freinage, il est venu trop tard, à mon avis. Donc, tout à fait laissé développer. Puis maintenant, tout le monde est serré au cou parce qu'on ne sait plus comment survivre. À part les toutes grandes stations, mais il y en a quand même en Suisse 3. Hein. Puis tout le reste, ils sont là, au cou.
Et pour Charmey, ça veut dire quoi? Vous
en avez, alors, vous avez nous, tout, nous on n'est plus haut que le cou. On est au niveau de la respiration maintenant. Il ne faut pas oublier que la survie des remontées mécaniques, elle est assumée par la commune, ce qui n'est pas très normal. Alors, comment est-ce qu'on comprend que l'État et la région puissent laisser tomber une station où la commune assure pratiquement seule la survie de l'exploitation. Les ski clubs ont joué un rôle prédominant dans le développement des stations touristiques, que ce soit ici à Charmey, que ce soit à Villars, que ce soit à Verbier, etc. La base, les décideurs, c'était des gens qui avaient envie de faire du ski. Ce n'est pas des décideurs qui avaient envie de faire du pognon à la base. Le truc, c'est des terriens qui ont envie de développer des vallées par le moyen du ski. Après, derrière, il y a des financiers qui sont venus. Sur les grandes stations, ils ont des appuis énormes. Parce que plus ils sont grands, plus ils ont d'appui. Ils mettent une petite partie de leurs moyens pour sauver ce qui est l'essentiel dans les vallées. Je pense que ça serait plus intelligent de leur part. Et ça serait dramatique que tout s'arrête, parce que c'est des milliers de personnes qui se sont défoncées pour survivre, parce qu'il y a des petits acteurs, même des familles qui ont eu une action, deux actions, des grandes entreprises qui ont mis un paquet pour que ça survive. Puis après, il y a tout ce qui est la construction, hein. Alors, tout ça serait réduit à néant.
Tu sais combien environ de personnes dépendent de cette économie?
Sur Charmey, je pense, entre les remontées mécaniques, le centre sportif, les bains, les hôtels, ben, tout ce qui gravite autour, l'école de ski, je pense 250 personnes. C'est très important qu'on doit suivre le guide, là, pour pas que ça fasse d'escalier, de la tête régulière. Là, c'est très important, là. Faut pas prendre trop la fois, mais faire confiance en son doigt qui suit le guide. D'après le sourcier qui s'occupe des captages de la commune, il y a quand même une diminution de 45 à 50% du débit. Donc, on se rend compte qu'elle s'est épuisée quand même dans les réserves. Hein. Alors, si c'est une année, ça va. Mais pour augmenter cette perte cette année, on a 5 à 6 ans d'été pluvieux pour ravitailler. Hein. L'alpage, chez moi, c'est la première année que, fin 10 août, il n'y a plus d'eau. Donc, à certaines altitudes, à mon avis, c'est presque une utopie d'investir dans l'énergie artificielle. À part des régions qui sont totalement au nord, comme Yonne, la petite station à côté de nous, ils ont la rivière à côté, donc ils puissent dans la rivière, pas de contraintes. Donc c'est nouveau pour moi, avoir plus d'eau dans cette région là-haut. Donc c'est quand même un sacré défi qu'on nous pose, hein, quand aux jeunes. Et c'est pas seulement Charmey, ce sera partout. Hein. Ah, ma petite fille qui arrive. Viens alors. Voilà. Ah, génération qui arrive. Ma petite fille, voilà, tu vois.
Bonjour.
Petite monitrice à l'école de ski qui va se permettre d'enseigner à Kstad. Mais pour moi, c'est euphorique. Hein? À des petits-enfants qui continuent.
Tu as quel âge, Laure?
20 ans.
Toi, t'as connu Charmey toujours avec la télécabine?
Oui, oui, oui. C'est pour ça que je ne m'imagine pas Charmey sans ça. Sans les bains, ben, peut-être, parce que c'est venu après. Mais la télécabine, non, on a appris à skier. On passait tous nos week-ends ici, alors on s'est entraîné là depuis tout petit. Après, on a commencé à aller dans les grandes stations, mais très tard par rapport aux autres, hein. Grand papa. En fait, à chaque année qu'on allait à Sasfe ou Zermatt, on se disait, mais il me semble que l'année passée, c'était pas comme ça. Ou pour nous, ça a changé. Puis on se posait quand même la question. Peut-être qu'un jour, nous, on a fait ce sport, mais il n'existera plus.
Oui, Laure, elle a raison sur ce point-là. Le choc du niveau d'enneigement est beaucoup plus important sur les glaciers à 2000, 3000 à 4000 mètres qu'ici en bas. La grosse diminution de l'eau en général, ça viendra du nord et des Alpes. Hein. La vie, c'est l'eau. Hein. Sans eau, on ne vit plus. Bon, nous, peut-être longtemps qu'on aura abandonné le ski. S'il ne neige pas, c'est un drame néo-touristique, mais ce n'est pas la survie de l'homme. C'est vital actuellement, parce qu'on n'a que ça. Mais s'il faut abandonner, ben, il faudra faire avec. Il faudra s'adapter. Oui.
Laure, toi, tu relis l'urgence climatique et environnementale directement à notre modèle de société.
Je trouve vraiment incroyable ce que la société nous propose, en fait. Quand je vois, par exemple, avec les natelles, les habits, j'ai pas besoin de ça. Je regarde mon armoire tous les jours, je me dis, mais j'ai tellement d'habits, puis au final, ça sert à quoi? Pour moi, c'est... Quand j'y réfléchis, c'est un... pas le néant, mais j'ai soit... Je me dis qu'il y aura vraiment un changement... on va arriver à un tel point que il y aura un changement, ou soit je me dis que au final la procrastination, hein, on remettra toujours à plus tard, et puis rien ne se fera, et puis on sera dans cette on aura laissé le monde aller comme ça sans essayer d'amener notre petite chose.
L'eau, un enjeu crucial. Les Alpes sont le château d'eau de l'Europe. Selon le réseau suisse de surveillance des glaciers, 80% des glaciers alpins devraient disparaître d'ici 2100. Ils alimentent les grands fleuves comme le Rhône, dont le débit s'est déjà réduit de 30% depuis le début des années 80. Cela pourrait obliger, dans les prochaines décennies, à une gestion drastique entre les besoins en eau potable, les besoins pour le bétail, pour les pâturages. On a d'ailleurs vu cet été les premières rotations d'hélicoptères dans le massif. Mais les acteurs économiques craignent d'abord l'impact sur deux secteurs majeurs. La production d'énergie hydroélectrique, qui couvre 57% des besoins en Suisse, et l'impact sur la production de la neige artificielle. Les stations en dessous de 1500 mètres ont perdu en moyenne 25 à 30% de leur enneigement naturel depuis les années 80. Et malgré les effets visibles du dérèglement climatique, beaucoup de stations continuent d'investir des sommes colossales dans le canot à neige, croyant encore au modèle du tourisme hivernal qui ont fait leur développement. La moitié d'entre elles pourrait disparaître d'ici 2050, avec toutes les conséquences sur le tissu économique et social. Rencontre avec Christophe Privat, géographe à l'Université de Lausanne et spécialiste de l'évolution touristique en montagne.
Je pense qu'il y a une sorte de blocage un petit peu dans les têtes par rapport à ce qu'on pourrait appeler une sorte de mythe autour des remontées mécaniques, qui est justement lié au fait que c'est l'activité qui, pendant 50 ans, a assuré le succès économique des destinations. Et aujourd'hui, on doit vraiment réfléchir à qu'est-ce qu'il y aurait comme autre alternative. Et c'est comme il n'y a pas une solution simple qui se présente, on est plutôt dans la poursuite du modèle qui a fait le succès, qu'on peut considérer pour certaines comme des stratégies plutôt de maladaptation dans la mesure où ce sont comme l'enneigement mécanique par exemple, ou comme de mettre l'accent prioritairement sur une clientèle qui vient de très loin et qui doit se déplacer en avion, puisque ce sont des activités, si on veut, qui dégagent pas simplement de gaz à effet de serre et en fait qui accélèrent le changement climatique. Mais ça, c'est un petit peu le problème du tourisme qui engendre évidemment des déplacements. Mais il y a quand même d'autres axes qui ont été développés en termes de stratégie, notamment la diversification sur la saison d'été, bien sûr, qui a été une saison qui pendant longtemps a été un petit peu délaissée, puisque la saison d'hiver marchait bien, comme la randonnée simplement, puis bien sûr en offrant des activités culturelles, œnotouristiques, gastronomiques, etc. Des concerts par exemple, des concours qui se font sur le domaine skiable, des levées de soleil, etc. Il y a un peu une explosion sur ce type d'activité pour essayer d'amener les gens aussi en altitude pendant la saison d'été.
Est-ce qu'il y a aujourd'hui une vision et une volonté de développer une stratégie globale ?
Un des problèmes vraiment aujourd'hui, c'est que la réflexion se fait vraiment au niveau local et que chaque station, chaque domaine skiable essaye vraiment de perdurer en faisant des investissements. C'est une sorte de course aux armements. Et en fait, évidemment, que ça n'a pas de sens du point de vue écologique et pas non plus du point de vue économique, puisqu'on est dans un marché du ski qui est en régression. En fait, il faudrait vraiment avoir une réflexion au minimum à l'échelle d'un canton, voire à une échelle nationale, pour finalement rechercher les domaines quelque part qui sont les plus aptes à poursuivre l'activité ski. Et puis, pour les autres, non pas des abandonnés, mais de justement de leur offrir du soutien, mais pour qu'ils diversifient sur d'autres types d'activités. Et puis on sait que le tourisme est, en tout cas en Suisse, un domaine qui est extrêmement fragmenté en termes d'acteurs et qu'il y aurait en fait des synergies. Alors ça se fait, je dirais, progressivement, mais on a encore une structure qui est extrêmement éclatée avec une multitude de petits partenaires. Et ça complique évidemment la mise en place d'un produit de qualité qui soit aussi cohérent pendant toute la durée de séjour du visiteur. La réflexion a quand même la peine à émerger. Elle émerge dans des secteurs au niveau scientifique, elle émerge au niveau de la Confédération, elle émerge dans certains cantons. Je vous ai parlé du canton de Vaud, le canton des Grisons aussi, par exemple, d'une stratégie d'adaptation du tourisme au changement climatique. elle est beaucoup moins présente en Valais, par exemple, où le canton, finalement, ne voit pas la nécessité de cette stratégie. Et sa politique, c'est plutôt de dire, nous avons un avantage concurrentiel parce que nos domaines skiables sont plus hauts. Donc oui, le réchauffement climatique est là, mais quelque part, tant mieux pour nous, les gens pourront skier plus qu'en Valais ou presque dans les Alpes. C'est un petit peu cynique, mais c'est un petit peu la vision qui est présentée. Donc la prise de conscience, elle est pas si forte que ça. Il y a quand même relativement peu de destinations qui vraiment développent leur stratégie en fonction de ce critère du changement climatique. C'est plutôt des réflexions en termes des attentes de la clientèle, de questions aussi de collaboration entre les acteurs locaux, etc., qui sont mis en avant, même si on peut trouver dans les documents, en arrière-plan, évoquer la question du changement climatique.
Nous quittons le village de Charmey pour la station d'Arola, dans le canton du Valais suisse. Construite en 1968, la station est sur le tracé de la mythique haute route Chamonix-Zermatt et sur celui de la patrouille des glaciers. La station est à 2000 mètres d'altitude, entourée de glaciers et de grands sommets. C'est Basile Bournissen qui nous guide. Guider, c'est sa profession, c'est même un héritage dans la famille. Son père et son grand-père ont été des pionniers dans le massif, quand les Britanniques se sont lancés à l'assaut des sommets au début du siècle dernier. Basile est aussi chef de la sécurité. Il siège au comité des remontées mécaniques et il est également commerçant dans la station.
Ici, on est au pied du bas glacier d'Arola. Maintenant, le glacier a quand même passablement reculé. Il a reculé en tout cas 250 à 300 mètres. La surface de glace a diminué énormément aussi. Il y a 20 ou 30 ans en arrière, on venait faire des écoles de glace ici avec des groupes et on pouvait marcher en crampons sur de la neige ou de la glace. Et maintenant, on voit que malheureusement, tout a diminué et c'est la roche qui recouvre la masse glaciaire qui se trouve au-dessous. Je me souviens qu'on avait entre 40 et 50 mètres de glace ici au fond, il y a de ça 40 ans passés pratiquement.
Là, le cours d'eau qu'on a juste à côté de nous.
Eh bien, c'est la naissance de la borne d'Arola. Elle est pompée jusqu'à la galerie principale qui est à 2400 mètres et qui va jusqu'à Chélon. Elle est utilisée pour la grande distance et elle va se jeter dans le Rhône à Bramois.
On aura moins d'eau à la longue, ça c'est certain. Mais actuellement, ça donne quand même une quantité d'eau qui est relativement importante, parce que la fonte du glacier, c'est ça qui produit le plus d'eau. Les stations hydroélectriques ici, c'est avec la fonte du glacier qui remplissent les barrages, parce que la masse neigeuse, elle n'apporte pas une quantité. On ne sait pas, peut-être que ces barrages qu'on utilise actuellement, l'eau pour faire de l'électricité, peut-être un jour, ça des barrages qui vont servir à alimenter des villes ou donner de l'eau à la population, on ne sait pas où on va avec ça. Mais si on prend le litre d'eau, puis le litre d'eau qui est payé pour le pompage, ils font fortune dans les sociétés.
Je suis montée à la pointe de Voisson, toute seule. Je suis raide.
C'est pas bien, ça, marcher dans les glaciers tout seul.
T'es d'accord, hein?
Non, c'est pas bien, tu aurais pu rester là-haut. Il y a plein de photos sur les Alpes. Ça, c'était le premier hôtel Montcolon. Dame Blanche, vue de Berthold, l'aiguille de la Tsar. Ça, c'est les échelles du Patchef, comme c'était avant. Et tu vois, t'arrivais au pied des échelles sans problème, maintenant ça s'est complètement érodé, et puis c'est tout changé. Mmh. Ça, c'est le village d'Arola, avant. Ça, c'était mon grand-père et mon grand-oncle.
Jean Bournissen et Camille Bournissen.
C'était les guides de l'hôtel, ça. Les mulets qui transportaient les bagages des clients. Et c'est toute une histoire.
Là, on est devant une photo du Montcolon qui a été faite au début du siècle dernier, ouais, c'est ça?
Je pense, parce que tu vois, il n'y avait pas de forêt du tout, rien. Il n'y avait pas un arbre là, pratiquement, tout au fond. Maintenant, c'est toute une forêt.
Et puis on voit le glacier.
On voit le glacier tout en bas, tu vois. Mais il est venu plus bas que ça.
Basile, à ton avis, quel pourrait être l'avenir et le modèle de développement à moyen terme pour Arola? C'est une destination de fond de vallée, très encaissée, difficile d'accès, la route environ 40 km, et surtout entourée par des très grands domaines.
Beaucoup de gens passent à Arola parce qu'on est entre Chamonix et Zermatt pour la haute route. On n'a pas la prétention d'être une station comme ces grandes stations qui nous entourent. Que l'enjeu, c'est de rester peut-être petit comme on est, en restant proche de la nature, et puis pas vouloir copier une grande station et, comme Zermatt ou Verbier ou Dinal, faire n'importe quoi en disant on va construire 4 buildings là parce que ça va nous amener des lits. Mais ça gâcherait complètement la nature et je ne pense pas que ce soit le but et la solution pour une station comme nous. Il faut rester petit en permettant quand même aux gens qui habitent à Arola de travailler et de rester vivre ici.
Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des projets dont vous discutez tous ici, habitants d'Arola, commerçants d'Arola?
Oui, on a des pistes de réflexion, on a des projets pour les remontées mécaniques. Ça serait de moderniser ce qui est existant déjà, parce que créer des nouvelles installations qui vont plus haut, plus loin, pour faire des volumes de pistes qui sont beaucoup plus grandes, tout ça demande beaucoup d'argent et il faut trouver des moyens financiers pour payer. Et puis, c'est pas évident parce que ici, par exemple, les remontées mécaniques, c'est une petite société privée où c'est que les hôteliers, les commerçants d'Arola qui sont partenaires avec l'aide de la commune, mais on n'a pas une masse financière de l'extérieur pour l'instant, en tout cas. Les remontées mécaniques dans une station, c'est une colonne vertébrale. Si t'as pas de remontées mécaniques, on ne vit plus de la même manière. Enfin, on ne vit plus du tout l'hiver. Pour moi, c'est assez clair. Jusqu'à maintenant, on a réussi à vivoter comme ça, mais c'est clair que plus on avance, plus les hivers viennent durs parce qu'il faut fabriquer plus de neige, et puis c'est des frais supplémentaires, et tu es obligé de changer les circuits électriques, il faut changer les câbles, il faut changer les batteries, les pilotes, faire des socles parce qu'ils prennent du jeu un peu avec les années et tout ça. Pour l'instant, ça tient combien de temps, je sais pas.
Quelle piste d'avenir donc pour le tourisme hivernal? La superstructure d'abord, un domaine toujours plus grand, plus haut, plus connecté, avec la question de la pertinence écologique. Et pour des stations comme Charmé, qui ne peuvent pas espérer se raccorder à un plus grand domaine, jouer la carte nature, la carte de la tradition, de l'authenticité, de la diversité des activités, où le ski est une activité parmi d'autres. Ce 14 janvier, un budget révisé a finalement été accepté par les habitants de la station. Les télésièges vont finalement tourner. Un sursis d'une année pour le domaine.
C'était un reportage de Samuel Turpin, un nouvel épisode de sa série Humans and Climate Change, qui suit une douzaine de familles face aux conséquences des changements climatiques dans une dizaine de pays sur 10 ans. Des histoires à retrouver en images sur le site humansclimatechange.com.
Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original quand il s'essuyait machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais il savait tous à propos tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver. Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais il faisait des centenaires à ne plus que savoir en faire s'il ne vous tournait pas la tête. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelle, que l'automne vient d'arriver.
Bonjour Hugues-François.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des stations de sport d'hiver et de l'enneigement à l'IRSTEA, l'Institut de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture. Nous sommes donc dans l'un des 9 centres de cet institut, celui de Grenoble, qui est donc un centre qui développe des recherches pour la connaissance et la gestion des territoires en montagne. Et on le voit bien, hein, quand on regarde par la fenêtre de votre bureau, on est entouré de montagnes enneigées. Vous êtes bien placé là.
Donc effectivement, de mon bureau, j'ai une vue directe sur la Chartreuse et le col de Porte qui se devine, où travaillent mes collègues de Météo France avec qui on collabore pour développer l'analyse de l'enneigement des domaines skiables.
Alors, vous avez écouté ce reportage de Samuel Turpin que l'on vient d'entendre. Comment est-ce que vous réagissez globalement à ce reportage ?
Alors j'ai bien écouté ce reportage, bien qu'il se passe en Suisse, il fait directement écho à des problématiques qu'on rencontre aussi aujourd'hui et il pose toute la question de la transition de ces territoires de montagne, de leur capacité à évoluer vers un autre modèle économique que celui qui est focalisé uniquement sur la pratique du ski alpin et les stations de sport d'hiver.
Et on entend beaucoup à travers le reportage les inquiétudes hein, des différentes générations, que ce soit le grand-père, le père, la petite-fille. Vous comprenez ces inquiétudes par rapport aux conséquences justement des changements climatiques sur ces activités dans les montagnes ?
Le ski, c'est quand même une activité récente dans les territoires de montagne. Et il a pris depuis les années 60 une place croissante. Et quand il s'est développé, on s'est rendu compte que la neige, elle n'était pas toujours présente en même temps que les touristes. Et on a été confronté à cette forte variabilité interannuelle. C'est-à-dire que la neige, il y a des années, il y en a peu. Des années, il y en a beaucoup. Et tout le problème pour une station de sport d'hiver, c'est d'arriver à fonctionner avec des immobilisations qui sont importantes. Parce que quand on achète un téléski, quand on achète un télésiège, c'est quelque chose qui coûte cher, qu'il faut amortir dans le temps. Et pour ça, on dépend d'une ressource qui est très variable. Donc se pose toute la question de la pérennité de cette activité et elle se pose de manière accrue dans un contexte de changement climatique où on voit de manière assez mécanique le lien entre réchauffement et diminution de l'enneigement. Et c'est quelque chose qui effectivement, depuis les années 80 et les premiers hivers sans neige, inquiète les populations chaque année qui se demandent si cette année, oui ou non, elles vont pouvoir ouvrir la station, elles vont pouvoir faire tourner les commerces, est-ce que ça va être rentable et est-ce que le ski va permettre de tenir jusqu'à la saison prochaine.
Et c'est un stress qui est grandissant parce qu'avec les changements climatiques, ça va devenir de plus en plus difficile de faire du ski dans les Alpes. Est-ce qu'on peut dire cela comme ça dans les 20, 30, 40 prochaines années ?
Alors aujourd'hui, le changement climatique, ça fait un petit peu l'office de fin de siècle. C'est le grand mal qui pèse sur nos sociétés, une épée de Damoclès qui va finir par nous tomber dessus. Mais tout ça, c'est chargé de beaucoup d'incertitudes. Et l'incertitude, finalement, c'est quelque chose d'assez stressant. Et on a pu le voir, d'ores et déjà, il y a des hivers avec beaucoup de neige, des hivers avec moins de neige. Cette variabilité, elle va continuer à exister dans l'avenir. Il y aura sans doute moins d'hivers très enneigés et plus d'hivers de très faible enneigement qui vont poser problème. Tout l'enjeu derrière ça, c'est justement d'arriver à dépasser ses peurs pour être en capacité d'agir. Et c'est pour ça qu'à IRSTEA, en collaboration avec les collègues du Centre d'études de la neige à Météo France, on essaye de développer une batterie d'indicateurs et d'outils qui nous permettent de voir quel peut être l'avenir réel, concret, des stations de sport d'hiver. Et de mettre derrière ce sentiment de peur, ces inquiétudes, de mettre des chiffres, des moyens de prendre du recul, de se saisir du problème et d'être en capacité d'action.
Alors vous avez fait des recherches au niveau des Alpes, au niveau des Pyrénées. Quelles grandes tendances vous pourriez nous donner pour les 20-30 ans qui viennent ?
Aujourd'hui, par rapport au changement climatique, il y a un signal qui est assez clair, c'est celui sur les températures. On voit qu'elles vont augmenter. Par contre, celui sur les précipitations, il est beaucoup moins clair. Donc on peut estimer qu'il y aura à peu près autant d'eau qui va tomber. Et ce qui va changer, c'est savoir si elle va tomber sous forme de pluie, sous forme liquide ou sous forme solide, c'est-à-dire sous forme de neige. On constate, dans les études qu'on a pu faire jusqu'à présent, que l'hiver qui existait aujourd'hui, d'une année sur cinq de faible enneigement, qui correspond à ce qu'on appelle un hiver sans neige, il risque de se reproduire d'ici 2050 à peu près un hiver sur deux. Et il faut savoir que jusqu'à présent et jusqu'en 2050, on est sur un phénomène d'inertie. C'est-à-dire que les émissions de gaz à effet de serre, la tendance climatique, elle est donnée. À partir de 2050, on voit des chemins différents se dessiner et on voit bien qu'à ce moment-là, et jusqu'à la fin du siècle, il y a un impact déterminant des émissions de gaz à effet de serre, y compris pour l'avenir des stations de sport d'hiver.
S'il y a moins de neige qui tombe, la neige, pour qu'on continue à skier, il va falloir la fabriquer. Alors c'est ce qu'on appelle faire de la neige artificielle, ça se fait à partir d'enneigeurs, on parle aussi de canons à neige, c'est-à-dire de machines qui puisent de l'eau et qui transforment cette eau en neige quand la température le permet. Mais ça, ça puise beaucoup d'eau. Est-ce qu'on observe de plus en plus le recours à ces machines et est-ce que c'est cela qui peut sauver l'économie du ski dans les 30-40 prochaines années ?
Effectivement, on peut comparer un petit peu aujourd'hui l'étude d'une station de sport d'hiver à celui de l'agriculture. Aujourd'hui, il viendrait à personne l'idée d'étudier l'agriculture sans parler d'irrigation. C'est un petit peu le même problème avec la station de sport d'hiver et la production de neige qui contribue au bon fonctionnement des stations de sport d'hiver. Parler de manteau neigeux en station de sport d'hiver sans tenir compte de l'apport possible de neige par la fabrication humaine, ça serait quelque part une hérésie et c'est une pratique qui est en forte croissance depuis de nombreuses années. On a parlé d'hivers sans neige. À la fin des années 80, il y a eu deux hivers sans neige qui se sont succédés, 89, 90, 90, 91, et qui ont fait prendre conscience aux gestionnaires de l'importance de la présence de cette ressource et de sa variabilité. À partir de là, les enneigeurs ont commencé à se développer et à gagner de la place dans les modalités d'exploitation des stations de sport d'hiver. La gestion de la neige, c'est devenu quelque chose de très important, de fondamental pour les stations, et non pas de manière exceptionnelle pour compenser un déficit d'enneigement, mais de manière ordinaire pour préparer les pistes et permettre la capitalisation de la neige sur le domaine skiable. Et ça rejoint un ensemble de pratiques assez générales, comme le profilage des pistes ou le dépierrage, dont on entend parler dans le reportage, et qui ont pour objectif d'offrir un produit ski aux skieurs avec le moins de neige possible.
Avant de venir vous voir, j'ai lu un peu vos travaux, et dans vos travaux, il est écrit que pour faire 2 mètres cubes de neige, il faut 1 mètre cube d'eau, et pour faire 1 hectare de piste de ski, il faut 3000 mètres cubes d'eau, donc ce sont quand même des besoins colossaux. En fait, globalement, si je comprends bien, en gros, on sera capable de produire de la neige durant les 30, 40, 50 prochaines années, mais la question, c'est à quel coût financier et à quel coût environnemental ?
C'est une question qui est complètement pertinente, tout en sachant que le consentement à payer du consommateur lui-même n'est pas élastique jusqu'à l'infini, et qu'on ne pourra pas tirer sur la corde de manière indéfinie, qu'on aura des limites à la fois sur les ressources naturelles et sur les ressources économiques, et que là, on est vraiment face à des choix politiques qu'il faut faire. Ce n'est pas un problème de faisabilité technique, c'est bien un problème de choix de société. Comment est-ce qu'on veut vivre dans nos montagnes, avec quelle économie et avec quel usage de la nature ? Sachant que la question du tourisme en tant que tel, c'est un choix de développement qui est sujet à l'attractivité de la destination, qu'elle soit en montagne ou ailleurs, et qu'aujourd'hui, la valeur du ski, elle est réelle, elle a une reconnaissance sociale importante, mais qu'on peut difficilement préjuger de l'évolution de cette valeur dans le temps, alors qu'on sait très bien que les stations, elles, sont des endroits relativement éloignés, en altitude, avec des petites routes pour y accéder, avec un réel coût de transport, et que le coût de transport, dans l'avenir, il risque lui-même d'évoluer assez fortement, et qu'on peut s'interroger sur le lien entre le coût du ski et les bénéfices qu'on peut en tirer.
C'est déjà très élitiste le ski.
Le ski, aujourd'hui, sur la population française, ça représente 8,5% de la population qui partent en séjour. À ces séjours, il faut rajouter un ensemble de populations qui vivent plus ou moins près des montagnes, plus ou moins près des stations, et qui les fréquentent non pas en séjour, mais à la journée. Et il faut aussi ajouter l'ensemble des clientèles étrangères.
Alors justement, le ski a été vendu finalement aux personnes qui habitent ces territoires de montagne dans les années 60, qui étaient pour la plupart des paysans, comme étant quelque chose qui incarnait la modernité, la conversion, il fallait se mettre au ski. Et aujourd'hui, finalement, on a l'impression que ces personnes se retrouvent un peu à nouveau au pied du mur, à devoir définir un nouveau modèle.
Complètement. Dans les années 60, on est une montagne qui est encore très paysanne. à qui on explique que l'agriculture moderne, ça va être quand même assez difficile d'atteindre les rendements en plaine et d'arriver à avoir des coûts de transport qui ne soient pas exorbitants par rapport à des productions qui se situent sur des grands axes ou à proximité de grands axes. En contrebas, dans les vallées, on voit se développer l'industrie qui utilise ce qu'on a appelé à l'époque la houille blanche. Et pour les secteurs d'altitude, qu'est-ce qui reste ? Il reste la promesse de l'or blanc, la promesse qui est faite à toute la montagne au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, avec des populations locales qui, quand elles ne sont pas dans des situations de stations d'altitude fortement soutenues par les pouvoirs publics, vont se prendre en main via les collectivités locales et vont construire par la force principalement de leur volonté leurs stations de sport d'hiver. Donc aujourd'hui, on a des populations qui vivent du ski, quelle que soit leur profession, avec des territoires dont la vie est rythmée par le ski, que ce soit une activité qui dépend directement du tourisme ou que ce soit une activité complémentaire. Et effectivement, aujourd'hui, on est face à une espèce de mur, qui est le changement climatique, qui interroge la pérennité du ski et la capacité des populations locales à vivre de ce ski, avec aucune recette qui est déjà toute faite. On parle beaucoup de la diversification, sauf que la diversification, ça dépend des endroits.
Ça veut dire quoi, la diversification ?
C'est limiter la dépendance à un seul produit, qui est le ski, justement. C'est essayer de développer des produits 4 saisons, voire de développer une autre économie. C'est assurer la transition d'un modèle économique qu'on connaît aujourd'hui à une autre manière de vivre en montagne.
Alors avec quel type d'activité, par exemple ?
Ça peut être, par exemple, équiper les sièges, des télésièges pour être en capacité de transporter des VTT pendant l'été pour faire du VTT de descente, comme ça se fait dans beaucoup de stations. Ça peut être contribuer à l'ouverture d'un bureau des guides de montagne, des guides de moyenne montagne, pour le développement d'activités assez lucratives comme l'escalade ou le canyoning. Voilà, ça peut être tout un panel d'activités de pleine nature ou plus orientées vers la balnéo, le confort, le bien-être, qui vont permettre de diversifier les activités touristiques et d'être plus présent sur 4 saisons et pas dépendant uniquement de la ressource en neige. Et dans l'optique du changement climatique, on peut imaginer des scénarios globalement de rupture, même s'ils vont s'inscrire dans du temps long, qui consisteraient à faire des territoires de montagne, des espèces de refuges d'altitude pour lutter contre la canicule, se mettre au frais, avec notamment le terme de montagnothérapie qui a été déposé à l'INPS dans les Pyrénées.
La montagnothérapie, ça c'est une activité d'avenir. Mais en gros, ce dont on parle là, c'est-à-dire la nécessité pour les petites, moyennes et grandes stations de s'adapter aux conséquences des changements climatiques, ça pose la question du rapport des hommes à leur territoire. Et c'est là où le changement climatique, évidemment, ça peut faire peur, mais c'est aussi une opportunité pour regarder peut-être à nouveau son environnement différemment et voir les opportunités que cet environnement crée.
Oui, toute la difficulté, c'est d'arriver à sortir la tête du guidon, comme on dit familièrement, et de dépasser ce qu'on connaît aujourd'hui sans être bloqué par ses peurs. Et justement, le ski, on ne peut pas l'opposer directement à la diversification. Souvent, ils sont mis en concurrence pour l'accès au crédit public, mais en réalité, on a encore des territoires qui fonctionnent, qui sont structurés par le ski, qui est un véritable moteur pour l'économie de ces territoires. Et la question, c'est comment est-ce qu'on utilise cette économie pour faire le changement, pour accompagner le changement. Et c'est en ça qu'on essaie de développer, nous, des outils pour un développement chemin faisant qui permet d'évaluer au fur et à mesure la capacité du ski à être porteur d'avenir pour les territoires et à réallouer les bonnes ressources au bon endroit, au bon moment.
Il y a quand même la notion de rentabilité qui est essentielle. Il y a un rapport de la Cour des comptes qui a été publié en février 2018 qui incite les 131 stations de ski des Alpes du Nord à changer rapidement leur modèle de développement. C'est-à-dire que quand même là, on est face à une situation où il faut réagir.
Globalement, pour produire du ski, aujourd'hui, ça implique des investissements relativement lourds et qu'il y a une certaine inertie de l'industrie pour changer de modèle et pour évoluer vers autre chose. Et c'est en ça que, quelque part, il y a urgence à se poser la question. Actuellement, est-ce qu'on a des territoires qui sont en danger immédiat et constaté? C'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à dire, puisque l'arrêt du ski, en tant que tel, représente un risque, comme on l'a vu, pour l'ensemble des populations dont les revenus dépendent directement ou indirectement de cette activité.
Donc la règle, c'est l'anticipation.
La règle, c'est l'observation, l'anticipation et surtout, c'est d'avoir un discours circonstancié à la réalité d'un territoire, à la réalité d'une station et pas d'arriver avec des recettes toutes faites dont elles ont montré depuis les années 60 justement qu'elles avaient aussi leurs limites.
En fait, aujourd'hui, le ski, c'est assez valorisant hein, socialement de dire « j'ai passé une semaine au ski, je suis allé faire un week-end au ski, etc. » Mais c'est une activité qui, étant donné toutes les contraintes qu'elle implique en termes environnementaux, pourrait devenir ringarde dans les décennies qui viennent.
Effectivement, aujourd'hui, le ski, c'est toujours quelque chose de valorisant. On voit quand même qu'il y a des discours critiques qui émergent d'ores et déjà dans les médias. Hein. Il y a quand même, déjà dans les années 60, quand on parlait des menhirs, on parlait de Sarcelles-sur-Neige, ce qui n'était pas forcément très valorisant et qui montrait tout l'écart qu'il peut y avoir entre l'image qui est véhiculée du ski comme quelque chose de très naturel, la blancheur immaculée des montagnes, la pureté, l'air environnant, tout cet imaginaire qu'on peut avoir autour du ski, mais qui peut être mis à mal par justement l'implantation de zones urbaines en pleine nature, qui a déjà été fortement critiquée, l'ouverture de secteurs vierges pour la pratique du ski, et aujourd'hui, on pointe du doigt les déplacements individuels qui peuvent être une source d'émissions de gaz à effet de serre, et donc finalement se retrouver dans une situation de serpent qui se mord la queue, avec le fait de faire du ski pour faire venir des touristes, mais en même temps, ces touristes qui émettent les gaz à effet de serre qui eux-mêmes remettent en cause l'existence du ski. Et à terme, cette culture du plaisir hédoniste, de la voiture individuelle, effectivement, on peut imaginer qu'il soit socialement assez mal perçu.
Merci Hugues François, merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous bien entendu pour votre fidélité. N'oubliez pas, il y a une vie après l'émission, vous pouvez nous réécouter en podcast bien sûr sur notre application Pure Radio et nous suivre sur la page internet de l'émission ou sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram, hashtag c'est pas du vent. Prenez soin de vous et des vôtres, on se retrouve demain, même planète, même heure.